Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7. On va relire le chapitre en entier et nous concentrer ce matin sur la deuxième partie de ce chapitre à partir du verset 9. Mais lisons donc le chapitre 7 de l'Apocalypse. Commençons au verset 1. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais ?» Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Jean, je vous rappelle, écrit aux églises, premier mot sur la feuille, aux églises qui sont dans la province romaine d'Asie. Et ces églises sont anxieuses. Elles se préparent à la persécution. Elles ont déjà connu pour certaines un avant-goût de cette persécution. Elles se préparent donc à la persécution qui doit arriver et aux tribulations. Mais elles reçoivent cette vision par la plume de l'apôtre Jean, pour qu'elles se rappellent de ce qu'elles sont réellement aux yeux de Dieu. Et pour rappeler aussi quel avenir est réservé pour l'Église, quel avenir est réservé pour le peuple de Dieu qui est en Christ. Et il y a une logique dans cela, c'est que si nous, en tant que croyants, si l'Église en entier, pouvait se voir dans les termes de notre destinée future, nous trouverions la force de tenir ferme et de persévérer. C'est vrai, c'était vrai au premier siècle, c'est vrai encore aujourd'hui. Et ce matin, donc, nous allons voir trois choses dans la deuxième partie de ce chapitre 7. Nous allons voir notre glorieuse destinée en Christ, notre délivrance et notre avenir éternel. Et terminer par une petite application. Le premier point, donc, notre glorieuse destinée, c'est le deuxième mot sur la feuille, notre glorieuse destinée en Christ, et c'est la réponse à la question, qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Après cela, nous dit Jean, verset 9, quand il utilise ce terme, il veut marquer le coup, il veut souligner qu'ici, il y a quelque chose de grandiose. Et il voit, nous l'avons déjà dit, mais il voit ici l'Église glorifiée dans le ciel. Après cela, je regardais, verset 9, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Nous avons vu la dernière fois, au début de la première partie de ce chapitre, que les 144 000 est une description symbolique de l'Église sur terre, de l'Église qui avance comme une armée, d'une Église qui se dirige vers sa demeure, vers la gloire. Et c'est une description de l'Église dans cette période, encore une fois, entre l'ascension de Christ et son retour dans la gloire. Et cette Église qui est, comme nous l'avons dit, scellée, gardée par Dieu pour ne pas être détruite par les épreuves. Elle est protégée pour justement arriver auprès du trône et louer Dieu et chanter sa gloire. C'est vrai que sur terre, c'est tentant pour nous de considérer l'Église comme étant une minorité insignifiante, incapable d'avoir un effet sur la balance politique ou économique de notre pays, même du monde. Et on peut être abattu comme le prophète Élie, rappelez-vous, qui se plaint auprès de Dieu et en disant qu'il est le seul vrai croyant qui reste en Israël. Mais vous savez l'histoire, le Seigneur lui révèle qu'il en a gardé 7000 autres qui n'ont pas plié le genou devant les idoles. On retrouve cela dans 1 Roi 19. L'Église, les croyants, ne sont jamais insignifiants. Ils font partie d'une foule innombrable qui sera élevée dans la gloire au dernier jour. L'Église est révélée dans ce passage de différentes manières. Tout d'abord, elle est révélée par son immensité. C'est une foule innombrable, troisième mot sur la feuille. Une foule innombrable faite de personnes qui sont de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. L'Église n'est pas limitée à une ethnie. Non, c'est une assemblée de croyants qui viennent de toutes origines, de toute langue. C'est une, bien sûr, cela nous rappelle la promesse que Dieu avait faite à Abraham en Genèse 12, les versets 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et cette foule innombrable que l'on a ici est l'accomplissement de cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il y aura des Africains, certains, nous en connaissons certains. Il y aura des Sud-Américains, des Nord-Américains, des Chinois, des Australiens, des Arabes. Il y aura même des Européens. Tous réunis dans un seul but, rendre gloire à Dieu et à l'agneau. C'est une foule immense que personne ne peut compter. La deuxième chose que l'Église se révèle, ou la manière dont se révèle, c'est dans sa diversité. Quatrième mot sur la feuille. Ici, des nations qui, sur terre, sont en guerre, ici, en Christ, ces nations sont, ces hommes de toutes nations sont en paix. à cause de Christ. Christ est notre paix. Paul l'écrira en Éphésiens chapitre 2, par exemple, en parlant de qu'il n'y a plus cette distinction, cette séparation entre juifs et païens. Christ a renversé le mur de séparation. Les divisions entre les nations qui sont issues, rappelez-vous, de ce qui s'est passé à la tour de Babel, ces divisions n'existeront plus dans la gloire, mais elles ne devraient pas exister sur terre. Nous sommes unis en Christ dans un même salut, une même foi. Il est vrai que sur terre, pour une église locale, c'est parfois difficile de surmonter les barrières de race, de barrières de culture. Mais dans le ciel, toutes les langues, tous les peuples seront représentés et seront unis pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, cela devrait nous encourager, en voyant cela, à ne pas mettre de barrière ici-bas sur terre entre les races, parce qu'il n'y a pas de barrière en Christ, il n'y a plus de barrière. L'Église est une foule immense, l'Église est composée, est riche dans sa diversité. Mais, troisièmement, l'Église est aussi révélée par la victoire, cinquième mot sur la feuille, la victoire qu'elle a reçue de Jésus-Christ. C'est ce qui est souligné par les habits, les robes blanches avec lesquelles sont revêtus les saints qui sont au ciel et les palmes qui tiennent dans leurs mains. C'est l'image de nos conquérants qui paradent, qui triomphent. Les saints qui sont au ciel portent ces robes blanches, ces palmes dans leurs mains, chose qu'ils ont obtenue par leur union avec Christ. Nous avons déjà dit que la couleur blanche décrit la pureté. C'est un symbole de la justification par la foi en Christ. À l'église de Sardes, rappelez-vous, au chapitre 3, verset 5, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci à celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Le Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire sur le péché par sa vie parfaite, par sa mort expiatoire et par la foi que Dieu nous donne, qui nous unit à Christ. Nous recevons cette justification. Nous sommes justifiés. Nous avons cette vie éternelle. C'est l'habit de l'épouse de Christ qui est sanctifié, qui est lavé de toute souillure. Et même si les croyants, même si nous, aujourd'hui, nous devons souffrir, et certains dans le passé, et certains encore aujourd'hui, meurent à cause de leur foi, nous pouvons dire que tous ceux qui sont en Christ connaîtront le triomphe avec Christ. Jean écrit dans sa première lettre, au chapitre 5 et au verset 4, « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » L'Église est donc représentée comme étant une foule immense, et une foule qui est riche dans sa diversité, et une foule qui est victorieuse à cause de la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Mais on voit aussi que l'Église, elle est occupée. Elle est occupée par la louange, sixième mot sur la feuille. Elle est occupée par la louange de Dieu pour son salut, verset 10. Et il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » L'Église qui est dans la gloire, les saints qui sont devant le trône de Dieu, sont occupés maintenant à chanter la souveraineté de Dieu dans le salut. Le salut qui a été planifié par Dieu le Père et que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Le salut est à notre Dieu. Ils sentent la souveraineté de Dieu, de cette grâce souveraine que Dieu a manifestée. Et c'est ce qui devrait nous occuper, même encore aujourd'hui, même encore lorsque nous sommes encore sur terre, au milieu des épreuves, de louer Dieu et le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce, pour sa grâce merveilleuse et souveraine. On voit des gens dans le monde qui deviennent, on pourrait dire, fous quand ils assistent à la victoire sportive, à la victoire de leur équipe, ou alors quand ils participent à un meeting politique, ou ils deviennent fous quand ils sont à un concert de leur chanteur préféré. Mais ici, on a quelque chose qui est encore plus exaltant. On a une victoire qui est plus éclatante que la victoire de notre équipe de foot ou de basket préférée. Et en attribuant le salut à Dieu, cette foule qui est dans la gloire déclare que seul Dieu mérite toute la louange, parce que c'est lui qui nous a délivrés, c'est lui qui nous a sauvés. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. On a des exemples aussi déjà dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous Moïse, par exemple, après la traversée de la mer Rouge, Exode 15, verset 2, il chante ce cantique. Il dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » C'est lui qui m'a sauvé. Et nous, un jour, je l'espère déjà, nous commençons ici-bas, mais un jour, nous rejoindrons cette foule devant le trône de Dieu et de l'agneau, et nous allons le louer de cette même manière. Mais il n'y a pas que l'Église qui loue Dieu pour son salut. Il y a l'armée des anges qui est tout autour, qui se joint, verset 11, qui se joint à l'Église, verset 11 et 12, et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. L'Église, non seulement donc l'Église loue Dieu pour son salut, mais les anges se joignent à cette adoration. Et d'abord, ils confirment, ils confirment ce que l'Église vient de dire, en commençant par dire Amen. Et ensuite, ils vont lister les attributs de Dieu qui sont glorifiés dans le salut, septième mot sur la feuille, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit notre Dieu au siècle des siècles. Dieu est digne de louange parce qu'il a manifesté sa gloire, il a exercé sa sagesse, il mérite l'action de grâce et l'honneur parce qu'il a manifesté sa puissance et sa force en sauvant son peuple de la condamnation du péché. Une telle louange va résonner dans toute l'éternité parce que Dieu a une fois pour toutes manifesté sa grâce à son peuple et il a gagné leur cœur de sorte qu'ils vont le louer pour l'éternité. Et cela soulève une question pour nous aujourd'hui. Est-ce que les anges qui nous voient vivre au quotidien voient des raisons pour louer Dieu? Est-ce qu'ils voient en nous l'œuvre? Est-ce qu'ils sont émerveillés en nous voyant vivre? On peut se poser aussi la question sur le plan humain. Est-ce que d'autres personnes qui nous voient, ceux qui sont autour de nous, sont amenés à se poser des questions en se disant « Ces personnes sont différentes. Ces personnes ne vivent pas de la même manière que nous. » Ils devraient, parce que, comme nous l'avons vu, l'Esprit Saint habite dans le cœur du croyant et il produit du fruit. Mais Tout cela est un encouragement. Un encouragement. Alors que nous avançons pas à pas dans notre vie, dans notre chemin sur terre, nous sommes encouragés. Nous devons être encouragés. Pas en réalisant que les anges louent Dieu avec l'Église. Ils louent Dieu pour sa sagesse. Ils louent Dieu pour sa puissance qu'il a manifestée en sauvant des hommes, des femmes, jeunes et moins jeunes, et en les réconciliant avec lui-même. Les anges se joignent à l'Église pour louer Dieu. Notre destinée, donc, notre destinée en Christ, c'est de faire partie de cette foule immense qui se tient devant le trône de Dieu et de l'agneau et qui chante ses louanges pour un salut si merveilleux. Mais la deuxième question, donc, le deuxième point et le suivant, c'est comment sont-ils arrivés là? Comment sont-ils arrivés à être devant le trône de Dieu et de l'agneau? Et donc, il est question ici de notre délivrance, huitième mot sur la feuille. Et comme cela arrive souvent dans ce livre de l'Apocalypse, la vision de Jean va s'animer lorsque l'un des vieillards vient lui poser la question. Au verset 13, l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » La vision, donc, a d'abord montré aux croyants qui souffrent sur terre ce qu'ils sont réellement, l'Église glorifiée de Jésus-Christ. Et maintenant, donc, le vieillard veut s'assurer que nous soyons tous au clair quant au chemin pour arriver devant le trône. Et il met en évidence, donc, la grande délivrance que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. Il y a deux points donc dans les propos du vieillard. Tout d'abord, le vieillard souligne que l'Église arrive au ciel en venant de la grande tribulation. Verset 14, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est le neuvième mot sur la feuille. Nous sommes conscients, et je pense que l'Église du premier siècle était consciente, et nous aussi, que des épreuves, des persécutions vont arriver et que nous sommes appelés à persévérer au milieu de l'opposition. L'apôtre Pierre, par exemple, a écrit dans sa première lettre au chapitre 4, versets 12 et 13, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise. Ce n'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre. Par contre, la déclaration du vieillard soulève une question au sujet de la date de cette tribulation. Dans son discours sur la fin des temps, le Seigneur Jésus a déclaré, en Matthieu 24, que peu de temps avant son retour, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours sont abrégés. Matthieu 24, versets 21 et 22. Et plus tard, dans Apocalypse, au chapitre 13, nous avons la description de l'apparition de l'Antichrist et de ses bêtes pour, il nous est dit au verset 7, « faire la guerre aux saints et les vaincre ». Et nous avons vu dans notre étude de Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que Paul écrit au sujet d'une grande apostasie dans l'Église qui doit arriver avant la fin des temps. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu connaître, que l'on ait vu apparaître l'homme impie, le fils de la perdition. Et avec donc cet arrière-plan, et parce que nous avons ici au verset 14, l'article définit la grande tribulation, certains ont cru que, et disent aujourd'hui que le vieillard ici fait référence à une période finale, une période qui serait brève, mais qui apparaîtrait juste avant le retour de Christ, qui serait une période d'épreuves extraordinaires que ces saints glorifiés doivent traverser. Mais il est préférable, il me semble, de voir dans les paroles du vieillard, encore une fois, ce que nous disons depuis le début, la description de l'âge de l'Église qui va de l'ascension du Christ jusqu'à son retour dans la gloire. Cette période qui est caractérisée par la persécution, par l'opposition, par l'affliction. La grande tribulation, c'est en fait la haine, dixième mot sur la feuille, la haine du monde envers Christ et envers son peuple qui est dans ce monde. Cette haine qui sera concentrée à la fin, elle est grande parce qu'elle dure toute la période de l'Église. Elle dure tout le temps. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit en Jean 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Le monde vous hait. Et cette idée de la tribulation qui dure toute la période de l'Église, elle s'accorde avec cette vision de Jean, parce que Jean voit la totalité de l'Église qui est dans la gloire. Une foule innombrable de toute l'histoire. Il ne voit pas simplement une partie de l'Église qui serait sauvée à la fin à travers une période de persécution finale. Non, il voit toute l'Église qui vient et qui vient de la grande tribulation. Le livre de l'Apocalypse, nous l'avons déjà dit, encourage ces églises du premier siècle à se préparer pour la persécution. Jean lui-même, rappelez-vous, au chapitre 1er, au verset 9, c'était décrit comme étant votre frère qui est part avec vous à la tribulation. Et à travers toute l'histoire de l'Église, ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ ont souffert de différentes manières à cause de l'Évangile. Mais ils ont persévéré parce que Dieu les a scellés, parce que Dieu les a marqués de son sceau, qu'il les a fortifiés par son esprit pour qu'ils tiennent dans la foi. Du temps de Jean, au premier siècle, les croyants ont été jetés aux lions. Plus tard, dans l'histoire de l'Église, certains ont été brûlés vifs. On peut penser au temps de la Réforme, par exemple. D'autres devaient fuir, se cacher. Certains, encore aujourd'hui, connaissent le bruit des armes. Un commentateur écrit ceci, « Il serait difficile de dire à un chrétien en Chine, en Irak ou en Corée du Nord que la tribulation n'a pas encore commencé. » Non, la grande tribulation, c'est la tribulation de toute la période de l'histoire de l'Église, l'opposition du monde à l'égard ou contre Christ et contre son peuple. Le Seigneur Jésus-Christ, en Jean 16, 33, avait dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui lui appartiennent, vont connaître des tribulations. Mais, comme cette vision le montre, ils sortiront de cette tribulation en vainqueur, pour entrer et faire partie de cette, et rejoindre ceux qui nous ont précédés, cette grande foule qui est devant le trône de l'agneau, qui est devant le trône de Dieu et de l'agneau, pour chanter les louanges de notre Dieu. La deuxième réponse que nous donne le vieillard, elle nous dirige vers l'agneau lui-même, verset 14. La deuxième partie du verset 14, donc ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Les saints qui sont au ciel ne se sont pas sauvés eux-mêmes. Ils n'ont pas vaincu au milieu de la tribulation par leur propre force, par leur propre capacité. Et le vieillard décrit avec la même clarté que la foule que le salut vient de Dieu. Et il attribue donc le salut des croyants à la puissance de purification du sang de Christ. Le 11e mot sur la feuille. Aujourd'hui, on te retrouve dans le milieu évangélique certaines personnes qui voudraient que l'on prête moins attention à la doctrine de la purification par le sang de Christ. Ils voudraient que l'on diminue les implications parce qu'ils voudraient plutôt mettre l'accent sur l'amour de Jésus. Mais toute la parole de Dieu nous est claire à ce sujet. C'est le sang de Christ. Le sang de Christ qui nous purifie. Ce sang qui parle du paiement par la mort d'un agneau, par la mort d'un substitut. Cette mort qui doit se passer, cette mort qui doit être offerte pour que la justice de Dieu soit satisfaite, c'est le sang du Christ qui nous lave. C'est ce sang qui a été versé et qui nous purifie de tout péché. Et trois choses, trois points à remarquer à ce sujet. C'est que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour les péchés de son peuple, mais son peuple reçoit les bénédictions, les privilèges de ce sacrifice par une foi personnelle. 12e mot sur la feuille. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies en mettant leur confiance dans l'agneau et dans le sacrifice qu'il a offert. C'est une foi personnelle. La deuxième chose, c'est que ces verbes sont au passé. C'est quelque chose qui est terminé. Ils ont, verset 14, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est vrai que nous devons sur terre persévérer dans la foi, mais c'est aussi vrai que au moment où Dieu nous donne la foi de croire dans le Seigneur Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie, dans le sang qu'il a versé sur la croix, à ce moment-là, nous sommes lavés. 13e mot sur la feuille. Nous sommes lavés de nos péchés, nous sommes revêtus de blanc, de vêtements blancs. Bien sûr, nous sommes conscients et nous le savons tous, que nous péchons encore sur terre, que nous avons besoin de reconnaître notre péché, de confesser devant Dieu nos manquements. Mais le sang de Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Et il le fait une fois pour toutes. Ce que Jean voit au sujet du peuple de Dieu qui est au ciel est aussi vrai de nous quand nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ ici sur terre. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ce n'est pas aura, mais a la vie éternelle. Mais le troisième point, la troisième chose à noter à ce sujet, c'est que cette vision nous dit que le seul chemin pour arriver au ciel, C'est par la purification, 14e mot sur la feuille, la purification de nos péchés par le sang de Christ. Jean voit l'Église qui est au ciel, Jean voit l'Église dans la gloire, toute l'assemblée, toute la foule immense du peuple qui a été racheté, qui a été scellé par Dieu. Et ils ont tous lavé leur robe. Ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Tous, sans exception. C'est sur la base de sa mort du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple que son peuple peut se tenir devant le trône correctement vêtu. Et ils sont tous sauvés de cette manière et pas d'une autre. Ils ont tous lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà l'Église du Seigneur Jésus-Christ, une foule immense. Comment sont-ils arrivés auprès du trône de Dieu et de l'agneau? Par la foi dans l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Mais troisième point, où vont-ils? Notre avenir, 15e mot sur la feuille, notre avenir éternel. La vision de Jean, donc, nous a donné une perspective glorieuse de la réalité céleste qui correspond à l'Église, et que l'Église qui souffre sur terre connaîtra cette perspective glorieuse. Mais même au ciel, ces saints ont un avenir. Jean conclut donc ce chapitre avec une description spectaculaire de cet avenir, cette destinée éternelle vers laquelle se dirige cette foule innombrable. Et c'est une grande source d'encouragement pour ceux qui sont en Christ. Il y a trois choses à dire à ce sujet. La première, c'est que Jean entend parler du refuge, 16e mot sur la feuille, du refuge que Dieu pourvoit par sa présence. C'est pour cela, 15e verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Les saints qui sont admis devant le trône de Dieu le sont parce que leurs péchés ont été effacés. Ils ont été lavés par le sang de l'agneau. Ils ont été justifiés en Christ. Et là, devant le trône de Dieu, devant le trône de l'agneau, ils lui rendent un culte joyeux, une adoration qui ne finira jamais. Ils ont un accès direct auprès de Dieu, auprès de sa gloire. Et ils sont remplis, comme le dira Paul en Éphésiens 3, remplis de toute la plénitude de Dieu. Et Dieu, de son côté, reçoit l'Église comme ses enfants bien-aimés, ses enfants qu'il a adoptés en Christ. Le souverain, le Créateur, qui est souverain sur toutes choses, va étendre sa protection et sa présence au-dessus d'eux, comme une tente, afin qu'ils demeurent en lui pour toujours. Et ce peuple qui, rappelez-vous, est aussi décrit comme étant un royaume de sacrificateurs pour Dieu, ce peuple va remplir son rôle pour lequel il a été créé et pour lequel il a été racheté. Il adore Dieu pour toujours. Ils adorent Dieu pour toujours. Et ils sont protégés. Ils sont gardés. Dieu est pour eux un refuge. Deuxième chose à dire, c'est que Jean entend la bénédiction, 17e mot sur la feuille. La bénédiction qui attend ce peuple de Dieu qui est à l'abri, qui est dans la présence de Dieu, entouré de l'amour de Dieu. Ils n'auront plus faim, verset 16, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Nous avons ici le bonheur du repos céleste, du repos vers lequel se dirige le peuple de Dieu, alors qu'il traverse le désert d'un monde pécheur. Sur terre, nous connaissons toutes sortes de difficultés, toutes sortes de privations, mais la promesse est là, que notre lutte ne sera pas en vain. Dans l'éternité, il n'y aura plus de lutte, plus d'épreuves, plus de pertes. Il n'y aura que la joie parfaite, la joie d'être en présence de notre Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Le roi David avait anticipé cela, par exemple à la fin du psaume 23. Psaume 23, versets 5 et 6, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Voilà la bénédiction qui attend ceux qui appartiennent à Christ. La troisième chose, et c'est le psaume 23 qui nous conduit au troisième point, c'est que, comme le dit ici le verset 17 d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ est notre berger, 18e mot sur la feuille. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et lui conduira aux sources des eaux de la vie. Il les paîtra. L'agneau va paître son troupeau. Et ce sera l'expérience la plus complète de la vie éternelle. Il nous conduira aux sources des eaux de la vie. Un commentateur le souligne en disant « Au ciel, les rachetés auront toujours soif de Dieu et cette soif sera satisfaite à travers le ministère de Jésus-Christ. » C'est lui qui nous conduira aux sources des eaux de la vie. Le berger qui conduit ses brebis n'est autre que celui qui est devenu l'agneau qui a été immolé pour son peuple. Et la vision de Jean se termine avec cette perspective que nous retrouverons en Apocalypse 21. Nous avons ici au verset 17 « Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » On pense aux églises auxquelles Jean écrit cette lettre, ces églises qui allaient connaître la persécution, qui allaient verser des larmes, qui allaient pleurer les pertes. Nous pensons à certaines personnes qui pleurent aujourd'hui, nous-mêmes aussi. Nous connaîtrons et nous connaîtrons, nous avons connu et nous connaîtrons la peine dans ce monde déchu. Mais quand nous atteindrons la destination finale, il n'y aura plus de larmes. Chaque perte aura été payée avec intérêt. Et c'est la propre main de Dieu qui essuiera les larmes de nos yeux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Comment appliquer cela? Comment appliquer ce passage? La fin de ce chapitre est une citation de Ésaïe 49. Et un peu plus tôt, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35, ce passage que nous avons lu tout à l'heure. Ésaïe s'était réjoui au sujet de la restauration glorieuse qui attend le peuple de Dieu. Dans les versets 1 et 2 de ce chapitre 35, il écrit « Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. » Et c'est ce que nous avons ici en Apocalypse 7. Nous sommes dans la présence de Dieu, de l'agneau. Mais Ésaïe, quand il écrit les versets 1 et 2, il poursuit avec cela en tête. Il encourage le peuple, et dans la même idée, dans le même esprit que l'apôtre Jean, il encourage le peuple au verset 3 et 4 d'Ésaïe 35. « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. » La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Cette vision donc est un encouragement, 19e mot sur la feuille. Un encouragement pour le peuple de Dieu qui est sur terre. un encouragement de voir que, oui, nous connaissons la tribulation, mais un jour, nous sortirons vainqueurs de cette tribulation. Et nous entrerons avec tous ceux du peuple que Dieu a choisi, de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Nous entrerons dans la gloire pour nous retrouver devant le trône de Dieu et de l'agneau et pour chanter tous ensemble « Oui, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Que Dieu nous aide à comprendre cela, qu'il nous aide à l'appliquer afin que nous vivions dans ce monde, dans notre pèlerinage, non pas les regards fixés sur les choses de ce monde qui peuvent nous attirer, mais que nous ayons les regards fixés sur les choses d'en haut, où le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père et qu'il nous aide à réaliser que si nous sommes à Christ, si nous avons lavé nos robes, nous avons blanchi dans le sang de l'agneau, nous sommes en route vers cette destinée glorieuse. Mais le seul moyen d'avoir cette bénédiction, d'avoir ce privilège de faire partie de cette nation, c'est d'avoir lavé ses vêtements, d'être venu à Christ dans une foi personnelle, dans la repentance et la foi, et d'avoir un cœur qui est lavé par le sang de l'agneau. Que Dieu donc bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.